Je vous invite, si vous les avez, à ouvrir vos Bibles au début, au commencement, Genèse, chapitre 2, versets 18 à 23. C'est un passage vedette. C'est un passage sur lequel je reviens souvent. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna donc des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Alors, il y a des tas de choses intéressantes dans ce passage. Je ne vais pas toutes les détailler. Mais voilà, en commencement, je voudrais faire une petite remarque. On voit que Dieu donne à Adam le pouvoir de donner un nom aux animaux, ce qui n'est pas rien. Il nous fait participants de sa création. Et il l'amène à constater qu'il ne trouve pas d'aide semblable à lui. Et bon, donc Dieu forme une femme, Adam se réveille et il s'aperçoit que Dieu a répondu à son attente. Et on voit un « on l'appellera femme » parce qu'elle a été prise de l'homme. Le « on » impersonnel, en fait, ici, il traduit le fait que ce n'est pas Adam qui donne son nom à la femme, car en hébreu, Isha, la femme, c'est simplement le féminin de Ish, et Ish, l'homme, c'est Dieu qui lui a donné son nom. Donc en fait, il ne fait que dire, voilà, tu as mis auprès de moi mon alter ego, il dit, l'os de mes os, la chair de ma chair. Je viens d'apprendre hier, je sais pas, Caroline n'est pas là, on était ensemble à l'école du Seigneur avec Jacques Poujol, en fait, les termes hébreux sont toujours très crus. Et alors, nous, on a l'habitude, en Occident, d'un peu de gommer les choses. En fait, Ish et Isha, ça veut dire pénétrant, pénétré. C'est très sexuel comme image. Dès le début, la Bible est très claire sur la différence entre l'homme et la femme. Alors, qu'observe-t-on dans ce passage? Que Adam reconnaît immédiatement en Ève un autre alter semblable ego, un autre moi. Alors, dans un sens, il se met le doigt dans l'œil. Ah oui, non, il y a tout faux. En fait, il ne la connaît pas encore. Il ne sait pas comment elle fonctionne. Il ne fait que la voir. Effectivement, elle est séduisante. Il va s'apercevoir qu'elle fonctionne pas tout à fait pareil que lui. Et toutes les personnes qui vivent en couple savent très bien de ce dont je veux parler. Bon. Mais en même temps, c'est vrai que ce qu'il y a de vrai dans ce qu'il dit, c'est que c'est une personne de la même nature que moi. C'est ça qu'il constate. Alors là, de ce côté-là, j'ai raison. Je ne confonds pas avec un animal. Et donc, je vais vous amener, bien sûr, on va parler de l'altérité. Alors, qu'est-ce que l'altérité? Il faut faire un petit peu de définition. L'étymologie du mot alter, qui veut dire autre. En philosophie, l'altérité, c'est le caractère, la qualité de ce qui est autre. C'est aussi la reconnaissance de l'autre dans sa différence, qu'elle soit sexuelle, ethnique, sociale, culturelle ou religieuse. Le questionnement sur l'altérité conduit à s'interroger sur ce qui est autre que nous, alter ego. Sur nos relations avec lui, sur les moyens de le connaître et sur la possibilité d'exister sans lui. Dans le langage courant, l'altérité est l'acceptation de l'autre en tant qu'être différent, et même la reconnaissance de ses droits à être lui-même, différent de nous. L'altérité se différencie de la tolérance car elle implique la compréhension des particularités de chacun, la capacité d'ouverture aux différentes cultures et leur métissage. Alors on va parler d'altérité, on va parler de différence, on va sans doute parler d'amour. Et l'altérité, pour le dire plus simplement, nous la constatons chaque jour, nous sommes tous différents les uns des autres, nous sommes différents de toutes les autres personnes dans ce monde, nous sommes uniques. Nous sommes différents de notre conjoint, de notre famille, nous sommes différents de toutes les personnes qui nous entourent. Comment envisager nos différences, donc? Alors, je vais citer, pour commencer, un président des États-Unis, rassurez-vous, c'est pas l'actuel. Dans les années 60, c'est Lyndon Johnson qui a remplacé Kennedy à son décès, qui a été élu au moins une fois. Il disait, si deux hommes sont d'accord sur tout, c'est qu'un seul des deux pense. La différence est a une implication intéressante. Il y a quelqu'un d'autre. Je ne suis pas seul dans l'univers à penser. Nous sommes faits pour être en relation les uns avec les autres, pas pour être seuls. Donc la différence est vraiment nécessaire. Alors, premier point, la différence est une bonne chose. La différence est voulue par Dieu. Dans tout le récit de la création, la différence est criante. Dieu commence par créer le jour et la nuit. C'est déjà une distinction. Il sépare les eaux de la terre ferme, les animaux mâles et femelles, et bien sûr les êtres humains, hommes et femmes. Et concernant le mariage, la Bible nous donne même des indications sur le fait qu'il est interdit d'épouser quelqu'un de trop proche de nous en termes de famille. On ne peut pas épouser sa sœur, on ne peut pas épouser sa mère, et toutes les cultures le reconnaissent d'ailleurs. On sait aujourd'hui, par exemple, avec la génétique, que les mariages consanguins, c'est-à-dire l'union entre cousins germains, issus du même grand-père, de la même grand-mère, multiplient par deux le risque de malformation des enfants. Ça fait beaucoup mal, doublement du risque. En revanche, il n'y a rien dans la Bible qui montre que le trop différent serait nuisible. Elle est voulue par Dieu pour Adam, cette femme, cet autre, dissemblable, pas très différent, pour le sortir de sa toute-puissance et de son enfermement. Idem pour nous. À votre avis, quelle est dans la journée la personne avec laquelle vous communiquez le plus?
Facebook.
Non, c'est pas une personne. Alors, il n'y a pas un spirituel qui dit Dieu, hein. C'est rassurant. Non, avec qui vous communiquez en permanence? Voilà, vous-même. Ouais. Mais vous rendez compte, si on était vraiment seul, à bout d'un moment, on se lasserait de communiquer qu'avec nous. Ça serait terrible. Et quand on lit dans Genèse 2:18, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Il faut comprendre d'après l'étymologie des mots, il est douloureusement regrettable que l'être humain soit seul. C'est très fort. Il est douloureusement regrettable que l'être humain soit seul. Une aide semblable à lui. Alors, en hébreu, aide, etzer, ça veut dire salut, solution, secours. Alors, c'est intéressant.
C'est fort.
Ève est la solution pour Dieu. Pas sa boniche. Ève et sa planche de salut. Alors, bon, c'est intéressant comme idée. Et donc, vous voyez comme quoi les mots choisis parfois sont pas les bons. La Bible en français courant, qui est une traduction relativement récente, dit, par exemple, le Seigneur se dit, alors ça c'est marrant parce que c'est la première fois que je vois une Bible qui dit le Seigneur se dit, parce que c'est toujours l'Éternel dit. Mais en fait il est tout seul, alors c'est à lui qu'il se dit, comme vous, vous dites à vous-même quelque chose. Il se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul, bon, je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Alors pourquoi ces traducteurs ont fait cette expression une sorte de partenaire? Parce que le mot en hébreu c'est kenetgo, c'est celle qui va s'opposer à toi. c'est celle qui va te demander des comptes. Alors, c'est pas très positif, hein. Autrement dit, elle va te poser des problèmes. Bon. Et ben, il y a des tas. Oui, oui. Mais oui. Oui, pour Françoise, oui, oui, bien sûr, oui. Non, mais ça, elle le sait. Bon. Il y a une chanson, je sais pas si vous connaissez Alain Chamfort. Bon, les gens de ma génération connaissent bien, et plus un peu moins Alain Chamfort. Il y a une chanson qui veut bien dire ça. C'est Clara veut la lune. Alors, il dit, Clara veut la lune, il m'arrive de refuser quand j'ai rangé la fusée au garage et que dehors il y a de l'orage. Clara veut la lune, moi qui suis plus terre à terre, je vois bien que ça la terre, qu'elle m'en veut de ne pas remuer les cieux pour ses beaux yeux. Ben, ça me touche, ça. Pourquoi? Parce que, en fait, dans le couple, il y a deux attentes très différentes. L'homme, il attend que sa femme ne change pas. Souvent. Elle est belle, il faut qu'elle reste comme ça. Hop! Ah oui, quand on se connaît dans la jeunesse, c'est bon. Alors que souvent, les femmes ont envie que leurs hommes changent. Et oui, elles avaient le prince charmant dans leur tête. Elles avaient Arlequin, elles avaient tout ça. Et pouf, elles tombent sur... il descend de son piédestal, l'homme, hein, en général, très très vite. Hein. Sur le plan de la nature aussi, les scientifiques nous parlent de plus en plus de la biodiversité menacée par l'activité humaine et dont la préservation est une condition vitale pour l'environnement. C'est à la fois sur le plan humain, à la fois sur le plan de la nature, une confirmation de l'intention du Créateur. De la diversité naît la vie. La vie est belle parce que elle est diverse. L'un des grands arguments de vente chez les distributeurs, c'est la variété. Chez Darty, par exemple, on a le plus grand choix de grille-pain. On nous dit aussi de manger équilibré, mais en fait, on pense manger varié. Ça serait terrible, tous les jours, manger la même chose. Bon. Moi, je fais manger mes petites filles chaque vendredi midi. Je m'honore de faire manger les petites filles, mais gare à moi si j'ose faire deux fois de suite le même repas. J'ai eu cette réflexion de ma grande, là, c'est Sarah, qui est en C20. Elle a tout de suite noté, mais on a mangé ça la semaine dernière. Alors donc, c'est vrai que la vie est plus belle quand on profite de toute la variété de la création de Dieu. Et c'est une source, la variété, la différence, est une source de beauté. On dit souvent d'un couple mixte, c'est-à-dire quelqu'un qui est, par exemple, de type européen, marié avec quelqu'un de type africain, vous allez avoir de beaux enfants. Et c'est vrai que si on regarde un grand nombre de top modèles, parce que ça c'est l'archétype de la beauté, n'est-ce pas, on voit souvent des top modèles qui ont des visages indéfinissables parce qu'ils sont deux ethnies vraiment différentes. On a été chercher un Pakistanais avec une Indienne ou je sais pas quoi, mais c'est vrai que c'est remarquable. La beauté, c'est la diversité. Les œuvres d'art, les couleurs, les formes, tout ça, c'est nécessaire à la beauté. Dans un musée, on remarque pas les murs, hein, ils sont de couleurs unies, ils doivent être neutres. Alors par contre, on regarde les tableaux. Et si vous regardez bien aujourd'hui, moi je suis frappé de l'évolution. Aujourd'hui, quand on fait une pièce, je parle de bricolage, hein, parce que moi je suis un fanatique du bricolage, quand on refait une pièce, en général on met quelque chose d'uni aujourd'hui. Vous savez, chez tous les couples qui ont des choses récentes, c'est souvent uni. Alors que dans les années 60-70, quand j'étais jeune, la mode était au contraire au papier peint chamarré. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des reconstitutions des années 70, mais c'est épouvantable. Moi, je me rappelle en premier deux pièces. On rentrait et il y avait du papier peint. C'était un fond noir avec des gros choux verts et puis des fleurs roses. C'était épouvantable. Mais bon, Je me suis pas suicidé quand même, Françoise non plus, mais on a survécu et maintenant on préfère les intérieurs zen où voilà, c'est reposant d'avoir une certaine énergie et en plus ça met en valeur ce que vous mettez comme décoration dans votre intérieur parce que voilà. La différence c'est aussi utile parce que ça nous pousse vers l'interdépendance. Un fruit de la différence c'est la complémentarité. Alors l'apôtre Paul, par exemple, évoque ça dans 1 Corinthiens 12. Je vais citer quelques extraits, mais que vous connaissez très bien ça. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. On pourrait dire l'unité par le biais de la différence, donc. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas humain, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il est tout entier, oui, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. C'est vraiment une belle image pour l'Église, ça. En fait, chaque membre, même les plus petits, sont indispensables. Prenez la vésicule biliaire, les choses comme ça. S'il y a quelque chose qui marche pas dans votre corps, tout le reste est affecté. Vous vous sentez complètement malade, abattu. Vous êtes, alors qu'il y a juste une petite inflammation à tel endroit. C'est le Saint-Esprit qui inspire, qui coordonne ses enfants. Moi, j'ai bien aimé le passage que tu as cité tout à l'heure, le premier passage, où on voit que Christ est le chef. Et je disais en bas, parce que j'aime bien regarder en bas, les petites notes, c'est le seul terme du Nouveau Testament qui est utilisé pour dire que c'est le chef. Les autres chefs, c'est pas des vrais chefs, en fait. L'homme est chef de la femme, mais c'est pas vraiment... Il faudrait examiner ça, mais ça sera le sujet d'un autre message. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? Voilà. Dans le couple également, il y a une première période fusionnelle qu'on appelle l'état amoureux, machin, qui dure soi-disant 2 ans, 2 ans et demi. Et après, les premières années de la vie conjugale sont consacrées, en principe, à tirer le meilleur parti de cette interdépendance dont je parlais, au niveau de l'Église. Et c'est pendant cette période, alors il n'y a pas de durée vraiment sur cette période, c'est très variable suivant les couples, mais... C'est là qu'on trouve la moins mauvaise manière de fonctionner ensemble. C'est un peu comme la démocratie. Il y a des archétypes, dominant-dominé, je commande, tu obéis. Alors là, bon, bien sûr, ça c'est un mode qui existe de moins en moins, heureusement. Il y en a d'autres, il y a au moins 4 grands modes, mais bon, on va pas aller par là. Mais voilà, on trouve, chaque couple doit trouver sa propre façon de fonctionner, en dehors des schémas parentaux, notamment. Et les psys appellent ça l'étape du partage du pouvoir. Et c'est pourquoi il est plus que souhaitable, nécessaire même, d'attendre d'avoir passé ces deux périodes avant d'avoir des enfants. Cependant, la différence n'est pas toujours positive. Nos différences ne sont pas toujours positives. À votre avis, je vais vous faire travailler, quels sont les points négatifs de la différence? Alors, je parle homme-femme, couple, amis, quels peuvent être les inconvénients de la différence?
Quand il y a presque pas de points.
Point commun, ouais. L'incompréhension. T'as dit l'incommunication? Ouais, c'est un peu.
Oui. Malentendu.
Malentendu.
C'est le mal.
Ouais, ouais. Peut-être. Oui, oui. Il veut pas entendre. Il n'entend que ce qu'il veut bien. Alors, incommunicabilité, incompréhension. Eh oui, parce que je suis pas le centre du monde. Non, mais je pensais que je l'étais. Adam tout seul, il était le centre du monde. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un, je suis remis en question. Ma tendance naturelle, c'est penser que l'univers tourne autour de moi à première vue. Et après vient la discussion, vient la confrontation des fois. On a peur de la différence parce qu'elle peut être source de conflit. Mais le conflit n'est pas forcément une mauvaise chose. On fait de temps en temps des séminaires couples avec Françoise et un des aspects de ces séminaires, c'est de parler de la résolution des conflits. On ne supprime pas les conflits. En tout cas, si dans un couple, il n'y a pas de conflit, il y a un malaise, comme on disait tout à l'heure avec Johnson, il y en a un qui pense, l'autre pas. Donc ça, c'est embêtant, très embêtant. Donc les conflits, qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif dans le conflit? En fait, c'est qu'il nous aide à nous définir, à décider ce qui est vraiment important. Il y a des tas d'exemples personnels, mais moi, je prends un exemple qui est un peu embêtant en ce moment, qui me tracasse. Il y a une petite... Il y a un conflit récent dans le protestantisme. Alors, l'ordre de protestants, en fait, à Strasbourg, au dernier moment, c'est inclus dans le programme officiel un culte inclusif. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un culte inclusif. Non, je vois bien. C'est en fait un culte destiné aux personnes homosexuelles. Alors, bon, nous, les évangéliques, on n'est pas très... Alors, on n'a pas la même position que l'Église réformée, enfin l'Église protestante unie de France, c'est-à-dire en fait l'association luthérienne réformée, qui en 2015 a décidé de bénir les couples homosexuels lors de cérémonies de mariage. Enfin, de laisser la liberté quand même en fait aux pasteurs de décider. Hein. Ils ne sont pas tous obligés de le faire. Hein. Et donc, ça a créé des remous au sein même de cette église, parce que il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, une minorité qui n'était pas d'accord, et qu'on appelle les attestants. Et puis depuis, c'est vrai que les relations sont plus compliquées entre évangéliques et réformés, luthéro-réformés. Au sein de ce qu'on appelle la Fédération protestante de France, là je fais un petit peu d'historique, la Fédération protestante de France est née il y a très longtemps, en 1905, au moment justement de la séparation de l'Église et de l'État en France. Ce qui a fallu clarifier les situations. Les protestants étaient pour pas mal à l'origine des lois sur la laïcité, parce que ils subissaient justement la domination de l'Église catholique. Et donc, pour ne pas non plus tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire l'esprit laïque, ce soit au contraire une condamnation des religions, les protestants ont mis leur petit grain de sel pour dire non, il faut que tout le monde puisse avoir la liberté de croire ou de ne pas croire et qu'on organise cette coexistence pacifique. Bon. 1905, donc c'est une vieille histoire. Nous, les baptistes, on a adhéré, je crois que c'est une des premières fédérations... Co-fondateur, de cette affaire. Et donc après, il y a eu beaucoup d'autres évangéliques qui sont venus dans cette fédération protestante qui appelait une maison commune, vous voyez. Et puis en 2010, les évangéliques, dans leur grande majorité, ont souhaité ce qu'on appelle le CNEF, Conseil National des Évangéliques de France. Alors, 2010-1905, vous voyez, c'est pas du tout la même credo, enfin, je veux dire, la même chose, mais, le CNEF rassemble à peu près les trois quarts des évangéliques français. Et, donc, en 2015, quand il y a eu cette affaire sur les couples homosexuels, c'est vrai que depuis, il y a des frictions un petit peu. Mais moi, je trouve que c'est sain de ne pas laisser les choses dans l'état de confusion. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert à cette occasion, dans les milieux protestants, que on n'était pas un milieu uniforme. on n'avait pas l'air aussi uniforme que le monde catholique sur les questions de mœurs. Bon. Le conflit, c'est normal, c'est inévitable, et ça permet à chacun de réfléchir à ses convictions. D'où viennent mes convictions? comment j'interprète la Bible. Enfin bon, il y a tout un tas de questions qui sont soulevées à cette occasion. Et c'était très bien parce que les journalistes également répercutent l'information. Ah oui, il y a des protestants qui ne sont pas d'accord avec le mariage homosexuel. Ah bon, pourquoi? Donc ça engendre, si vous voulez, un dialogue. Voilà, bon, ça ne change pas forcément les positions des uns et des autres. Et au moins, ça a le mérite d'être clair. Et puis, bon, bah, nous, on aime bien expliquer qu'on n'a rien contre les homosexuels. On compatit, je dirais, à leur malheur, dans la mesure où on pense que c'est un mauvais choix, un mauvais moment de sa vie. Hein. Et qu'il faut accueillir pour aider. Donc, l'important n'est pas de chercher à éviter le conflit à tout prix. Dans la mesure du possible, chercher à le résoudre. Souvent, une fois le conflit résolu, nous avons grandi dans notre relation. Et c'est appréciable. Nous avons tourné nos différences à notre avantage. Il faut toujours penser faire quelque chose de ces différences. Dans la famille, dans le couple, à l'église. Quoi faire de nos différences? Nous accepter, même nous apprécier. Chacun de nous est unique et de grande valeur devant Dieu. C'est le roi David, qui pourtant m'a fait belle, qui l'exprime de fort belle manière. Il pourrait être un peu contrit. Ben non, il dit dans le psaume 139, « Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi la créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. » Alors s'il y a quelque chose d'unique dans le judaïsme et le christianisme, parce qu'ils partagent ensemble cette révélation-là, c'est que l'homme est à l'image de Dieu. Enfin, l'homme et la femme sont à l'image de Dieu. C'est extraordinaire, ça, comme idée. Nulle part ailleurs, vous n'entendez pas cette évocation-là. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas hésité, on pourrait même dire qu'il a prémédité de se révéler en la personne de Jésus-Christ. Quelle belle reconnaissance. Enfin, c'est cohérent que Dieu se révèle comme un être humain. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on voit le Fils de l'homme. Cette expression revient très très souvent, le Fils de l'homme. Et ça serait intéressant d'étudier cette expression dans la bouche de Jésus. La majorité des différences sont positives. Entre Françoise et moi, il y a plus de différences qui sont belles, intéressantes, complémentaires, que de différences négatives ou irritantes. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me concentrer sur le positif. Parce qu'il est plus important que le négatif. Pas faire comme si ce négatif n'existait pas, mais le relativiser, le mettre à sa place. Je ne suis pas mandaté par Dieu pour changer ma femme, et inversement, ma femme n'est pas mandatée par Dieu pour me changer. Nous changeons chacun, mais ensemble, voilà. Et l'objectif certainement d'un couple, c'est de faire le pari que ça va marcher, qu'on va s'adapter au fur et à mesure de notre évolution, qui est sans cesse, 50, 60, je suppose 70 ans, j'ai pas encore fait l'expérience, mais on change tout le temps. Et il faut à chaque fois renégocier, si on peut dire, notre contrat. J'aime pas le mot contrat, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Lorsqu'une différence nous heurte, nous dérange, demandons-nous pourquoi. Parfois c'est juste une question de goût. On a affaire à quelqu'un, on trouve qu'il s'habille mal, et on en déduit, bah, il n'est pas crédible. Ah si, il peut être très bien crédible. Si c'est un bon docteur, peu importe qu'il s'habille mal, hein, l'important c'est qu'il soit compétent, parce que j'ai pas envie de mourir. C'est un peu ça. Est-ce contraire à nos habitudes? Est-ce que l'autre a réellement l'intention, par exemple, de nous enfoncer en nous posant une question dérangeante? Il y a toutes sortes de situations où notre cerveau limbique, c'est-à-dire le cerveau des émotions, nous joue des tours. Et il faut par conséquent analyser ces situations pour comprendre la source de notre trouble. La différence est une bonne chose, mais bien sûr, il y a quelques inconvénients. Pour aller plus loin, quelques paradoxes. Je me rappelle, il y a très très longtemps, j'avais assisté à une conférence sur le couple avec des équipiers, nos grands-parents spirituels, je me rappelle, Yann, et il citait le témoignage d'une femme concernant son époux. Mon mari est une île mystérieuse et je ne sais jamais par quel port l'accoster. Alors c'était pour dire, oui, l'incommunicabilité, enfin l'indifférence, machin, bon. Mais c'est un constat intéressant, parce que celle avec qui, celui avec qui vous vivez la plus grande partie de votre vie reste un mystère. C'est à la fois, je dirais, une douleur et un bonheur. Douleur. Comment faire pour l'aider à se construire alors que je le connais ou que je la connais si mal? Bonheur. J'ai toujours des choses à découvrir en lui, en elle. Et cette tension, ce paradoxe, est aussi applicable à des bons amis, des bonnes amies. À la fois mystère et à la fois bonheur de la découverte. Deuxième paradoxe, aucune rencontre n'est possible entre deux semblables, alors deux semblables au sens d'identique. N'avez-vous pas remarqué qu'en général, bon à part les narcissiques sévères, nous n'aimons pas nous entendre parler dans un enregistrement. Nous n'aimons pas nous voir en vidéo, par exemple. Alors, ça c'est intéressant à se poser comme question. On veut bien voir les autres dans une vidéo, mais bah, nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit que nos défauts. Moi, quand je m'écoute parler, les enregistrements, les autres, ah, j'ai une voix, j'aime pas. Ah là là, quelle horreur! Et puis bon, quand on se regarde, bah, on se tient mal, ou on sait pas quoi faire de ses mains. Toute chose, vous savez ce que vous allez faire certainement cette expérience. En fait, on ne voit que nos défauts, et c'est pareil aussi quand on rencontre un identique, c'est-à-dire un autre soi-même, quelqu'un qui a les mêmes façons de réagir que nous, il nous agace profondément. Pourquoi? Parce que on sait déjà à l'avance, avant qu'il ouvre la bouche, ce qu'il va dire, puisque je l'aurais dit moi-même. Et alors ça, c'est embêtant comme situation. Cette personne ne sert à rien. Je sais déjà bon, ce qu'elle va dire. Donc ça, c'est pénible. Donc, les relations entre identiques. Les relations complices. Alors, ça, c'est un autre... on est à peu près sur le même registre. Les relations complices, les complices. Alors, un complice, ça peut être connoté négativement. Un complice pour un crime, ou complice pour un vol. Mais il y a des connotations positives. Complice dans un couple. C'est vrai qu'on aime bien être complice. Là, c'est pas quand je parle de complice, c'est plus comment dire. C'est quand on trouve, vous savez, ah oui, je commence une phrase, il peut la finir. Voilà. On est comme les deux doigts de la main. Enfin, maintenant, il paraît qu'on dit plus les deux doigts, on dit les doigts de la main. Je sais pas pourquoi, on sait plus compter peut-être, mais bon. Maintenant, on dit on est comme les doigts de la main. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Voilà. Alors, c'est un peu des identiques, oui. Mais on a l'impression que c'est mieux parce que, voilà, ça a l'air de marcher. Et vous connaissez la phrase suivante qui a été le titre d'une chanson d'Erita Mitsuko, d'ailleurs, c'est « Les histoires d'amour finissent mal en général ». Alors, c'est pas les histoires d'amour, les bonnes histoires d'amour, c'est... Là, c'est les relations de complicité. Elles finissent mal en général. Parce que les amitiés complices sont souvent fragiles. On se connaît trop bien. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a aucun respect de l'altérité en l'autre. C'est un autre moi-même. Et cette relation est destinée au déchirement. Quelques exemples célèbres pour les anciens. Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret. Au hasard. C'était intéressant. Ils étaient comme les deux doigts de la main. Ils faisaient ensemble progresser le Front National. Il y en a un qui était para et l'autre qui était polytechnicien. Alors on pourrait dire, ah ben, c'est intéressant ça. C'est vrai qu'on aime bien la différence. Donc ils étaient très différents et ils fonctionnaient pareil dans leur démarche. Intéressant de savoir que sa fille a fait la même chose avec Florian Philippot. Elle, l'héritière du para. Lui, ENARC, pareil, une association, une complicité. et ça a mal fini. Plus feutré, Macron Hollande. Hollande dit de Macron, il m'a trahi avec méthode. Quelle élégance. Mais c'est la même chose. Les gens qui sont en connivence, voilà, parfaite connivence intellectuelle, et puis à un moment donné, clac, il y a la trahison. Ces personnes ont été au sens... Voilà, oh je me suis mal exprimé. En fait, elles ont fait 1 plus 1 égale 1. Bon. Et souvent, malheureusement, quand on lit dans la Bible et ils ne feront plus qu'une seule chair, on pense à ça. Mais en fait, ça, c'est pas le bon plan. Parce qu'en général, 1 plus 1, en général, c'est la femme qui est à l'intérieur du mari. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, la femme est perdante. Enfin, des fois, c'est le contraire. Enfin, ça arrive qu'on dit elle porte la culotte. Mais en réalité, pour que ça marche, et alors là, j'ai perdu l'endroit où j'avais mis ça. une bonne relation... La Bible, quand elle parle d'unité, elle peut parler d'unité plurielle. La Trinité, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, on conçoit que c'est un seul Dieu, mais il se manifeste en trois personnes. Et donc, pour nous, c'est pareil avec celui ou celle qui partage notre vie. Je, elle, nous. En fait, il y a trois choses, et une bonne relation équilibrée, c'est ça, c'est je vais vers toi, ou je vais vers le nous, peu importe, et nous construisons ensemble quelque chose d'unique, mais nous restons chacun unique aussi. Il n'y a pas de fusion. J'avais une blague là, mais je l'ai ratée. Ah, c'est dommage. Le 1 est pluriel, j'avais mis comme la gauche de Jospin. Je vais quand même la faire. Bon. Il y a moi, il y a l'autre, et il y a nous. Celui, celle que j'aime, et celui, celle que je ne peux pas connaître, parce que c'est précisément son altérité que j'aime. Et c'est l'autre que j'aime en lui. L'amour est finalement l'amour de l'altérité en l'autre. Conclusion. Pour résumer, la différence est une bonne chose, elle rend la vie plus intéressante, elle est utile. La majorité des différences entre nous sont positives. Parfois, nos différences peuvent nous heurter, nous faire peur ou même causer des conflits. Cherchez pourquoi une différence avec votre entourage vous embête. Souvent, il est question de nos habitudes, notre éducation et nos goûts. Alors, pour finir, que recherchons-nous chez les autres? Alors, d'abord, souvent, je parle déjà mari-femme, mais aussi nos amis. Comment les aimons-nous? C'est une question qui doit nous interpeller. Seul l'amour permet la rencontre. La rencontre est rare et précieuse. Elle vaut le coup qu'on y investisse une vraie réflexion pour établir une relation riche, épanouissante, dynamique et pleine de sens. La vie est courte. Donc, en général, on cultive l'amitié, l'amour, avec très peu de personnes. Très peu. Ça dépend. On n'est pas infini, notre temps est fini, nos amitiés sont... le nombre de relations est fini, et donc c'est important de, à la fois, en tant que couple, mais aussi avec nos amis, nos relations auxquelles nous tenons, de réfléchir sur... ces choses. Je voudrais prier pour finir. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. On a parlé du GPS tout à l'heure, mais elle est riche de sens. Plus on la sonde et plus on trouve de choses profondes et merveilleuses. Oui, nous voulons te prier que dans nos relations les uns avec les autres, nous soyons bien sûr authentiques, mais nous cherchions le bien de l'autre. Nous cherchions à nous enrichir les uns les autres tout en nous respectant dans nos personnalités. Et nous savons que tu nous as fait vivre par le passé des expériences formidables, mais tu veux continuer à nous travailler pour que nous, ouais, nous soyons plus conformes à ton image. Nous sachions aussi considérer les intérêts des autres comme supérieurs aux nôtres pour en fait être dans une vraie relation et pouvoir aimer cette différence que nous trouvons en l'autre. Merci pour ta parole qui est plein d'exemples de relations humaines, à la fois des négatives et des positives d'ailleurs, et nous te demandons de nous rendre plus sensibles à ce que tu veux que nous développions entre nous. Amen.
Amen.